Mais la goutte de sueur enflammée, elle se trouvait déjà dans l'histoire que lui-même a entendue et a répétée, ou que Béranger s'est figurée dans son excitation et dans son remords. Parce qu'il y a, en antistrophe au remords d'Adelme, un remords de Béranger. Tu l'as entendu. Et si Adelme venait du cœur, il portait peut-être un cierge. Et la goutte sur la main de son ami n'était qu'une goutte de cire. Mais Béranger s'est senti brûler bien davantage parce qu'Adelme l'a certainement appelé son maître. Signe donc qu'Adelme lui reprochait de lui avoir appris quelque chose dont maintenant il se désespérait à mort. Et Béranger le sait. Il souffre, car il sait qu'il a poussé Adelme à la mort en lui faisant faire quelque chose qu'il ne devait pas. Et il n'est pas difficile d'imaginer quoi, mon pauvre Atso, après ce que nous avons entendu sur notre aide bibliothécaire.
« Je crois avoir compris ce qui s'est passé entre deux, » dis-je en ayant honte de ma sagacité. « Mais ne croyons-nous pas tous en un Dieu de miséricorde ?»« Adelme, vous dites, s'était probablement confessé. Pourquoi a-t-il cherché à punir son premier péché par un péché certes plus grand encore, et au moins d'égale gravité ?»«
Parce que quelqu'un a proféré contre lui des mots de désespérance. » J'ai dit que certaines pages de prédicateurs de notre époque doivent avoir suggéré à quelqu'un les paroles qui ont épouvanté Adelme et avec lesquelles Adelme a épouvanté Béranger. Jamais, comme en ces dernières années, les prédicateurs n'ont offert au peuple pour en stimuler la piété et la terreur, et la ferveur et la soumission à la loi humaine et divine, paroles si farouches, bouleversantes et macabres. Jamais, comme à notre époque, au milieu des processions de flagellants, on a entendu des hymnes sacrés inspirés aux seules douleurs de Christ et de la Vierge. Jamais comme aujourd'hui on a tant insisté pour stimuler la foi des gens simples sur l'évocation des tourments infernaux.
Peut-être est-ce besoin de pénitence, dis-je.
Atso, je n'ai jamais entendu autant d'appels à la pénitence qu'aujourd'hui, dans une période où désormais ni prédicateurs ni évêques, et mes frères spirituels non plus, ne sont même à la hauteur pour promouvoir une vraie pénitence.
Mais le troisième âge, le pape angélique, le chapitre de Pérouse, dis-je désorienté.
Nostalgie. La grande époque de la pénitence est finie, et c'est pour cela que même le chapitre général de l'ordre peut parler de pénitence. Il y a eu, voilà 100 ou 200 ans, une grande vague de rénovation. Elle subsistait quand ceux qui en parlaient étaient brûlés, qu'ils fussent saints ou hérétiques. À présent, tout s'en parle. En un certain sens, même le pape en discute. N'aie pas confiance dans les rénovations du genre humain, quand en parlent les curies ou les cours.
Mais Fradolcino, osais-je, curieux d'en savoir davantage sur ce nom que j'avais entendu prononcer plusieurs fois la veille.
Il est mort, et mal, comme il a vécu, parce que lui aussi est venu trop tard.
Et puis qu'en sais-tu, toi?
Rien, c'est pour cela que je vous demande.
Je préférerais n'en parler jamais. J'ai eu affaire à certains des soi-disant apôtres, et je les ai observés de près, une triste histoire.
Elle te troublerait. De toute façon, elle m'a troublé, moi. Et te troublerait davantage ma propre incapacité de juger.
Et l'histoire d'un homme qui fit des choses insensées parce qu'il avait mis en pratique ce que lui avaient prêché de nombreux saints. À un certain point, je n'ai plus compris de qui était la faute. J'ai été comme obnubilé par un air de famille qui émanait des deux camps adverses. Des saints qui prêchaient la pénitence et des pécheurs qui la mettaient en pratique, souvent aux frais d'autrui. Mais je parlais d'autre chose. Ou peut-être pas. Je parlais toujours de ceci. Fini l'époque de la pénitence. Pour les pénitents, le besoin de pénitence est devenu besoin de mort. Et ceux qui ont tué les pénitents, devenus fous, en restituant la mort à la mort pour vaincre la vraie pénitence qui produisait la mort, ont remplacé la pénitence de l'âme par une pénitence de l'imagination. Un rappel à des visions surnaturelles de souffrance et de sang, les appelant « miroirs de la vraie pénitence ». Un miroir qui fait vivre au cours de leur vie, à l'imagination des simples et parfois des doctes aussi, les tourments de l'enfer. Afin que, dit-on, personne ne pêche. Avec l'espoir de retenir les âmes sur la voie du péché grâce à la peur, et le calcul de substituer à la rébellion la peur.
Mais vraiment ensuite, ils ne pêcheront pas ? Demandai-je anxieusement.
Cela dépend de ce que tu entends par péché, Atso, me dit le maître. Je ne voudrais pas être injuste avec les gens de ce pays où je vis depuis plusieurs années, mais
Il me semble qu'il est typique de la faible vertu des populations italiennes de ne pas pécher par crainte de quelque idole, tout saint qu'ils l'appellent. Ils ont plus peur de saint Sébastien ou de saint Antoine que du Christ. Si quelqu'un veut garder un endroit propre ici, pour qu'on ne pisse pas dessus, comme font les Italiens à la manière des chiens, il faut qu'il y peigne une image de saint Antoine avec la pointe d'un bâton, et cette image chassera ceux qui s'apprêtaient à pisser. Ainsi les Italiens, et grâce à leurs prédicateurs, risquent de retourner aux antiques superstitions et ne croient plus à la résurrection de la chair. Ils n'ont qu'une peur bleue des blessures corporelles et des malheurs. C'est ainsi qu'ils craignent davantage saint Antoine que Christ. Mais Béranger n'est pas italien, observai-je. Peu importe. Je parle du climat que l'Église et les ordres prêcheurs ont répandu sur cette péninsule, et qui d'ici se propage partout, et atteint jusqu'à une vénérable abbaye de moines savants tels que ceux-ci. Mais si au moins ils ne pêchaient pas, insistai-je, car j'étais disposé à ne me contenter même que de cela. Si cette abbaye était un speculum mundi, tu aurais déjà la réponse. Mais l'est-elle, demandai-je. Pour qu'il y ait miroir du monde, il faut que le monde ait une forme, conclut Guillaume, qui était par trop philosophe pour mon esprit d'adolescent.